Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Pénélope Bagieux, la star des dessinatrices qui vient d'adapter le conte de Roald Dahl, Sacrée Sorcière, en BD. C'est une première mondiale, on en parle dans un instant. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, nous serons en direct du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême avec Mathieu Charrier et en direct de Nantes avec Thierry Geffrotin pour la Folle Journée de Nantes, le plus grand festival de musique classique en France. On a un très bon bilan carbone puisque justement, tout ça est électronique. Hélène Manarino, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture et journal qui commence par le festival Solidays. Les artistes ont été dévoilés ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard.
Et oui, le festival Solidays qui se déroulera du 19 au 21 juin prochain à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Et pour la 22e édition, voici Philippe, les premiers noms. Alors on commence par celui qui met à l'honneur le grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con.
Vous l'avez reconnu, si bien évidemment.
C'est moi,
mais
le
oui.
grand petit con.
Je n'ai pas osé, je n'ai pas dit.
C'était tellement facile, je ne pouvais pas ne pas le faire.
M qui sera sur donc, la scène du festival Solidays. Ce n'est pas tout, les festivaliers pourront acclamer également le phénomène de ces deux dernières années.
Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça, c'était qu'un jeu redescend.
Aya Nakamura.
Mais oui, évidemment. J'ai reconnu 40%.
Et allez, jamais 203, on dévoile un dernier nom, c'est Vidéo Club.
J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'on est, j'aimerais.
Retrouvez tous les autres artistes sur Europe1.fr et puis pour encore plus de détails sur ce festival, rendez-vous ce soir 20h avec Émilie Mazoyer pour Musique et je rappelle que la billetterie ouvrira le 6 février.
Tout autre sujet, on le présentait dès hier quand vous nous avez donné la liste, les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski, c'est rien de le dire, suscite des réactions.
Et oui, je rappelle que le réalisateur est accusé de viol et d'agression sexuelle. L'association Oser le Féminisme a appelé un rassemblement lors de la cérémonie qui aura lieu le 28 février prochain à la salle Pleyel. La porte-parole a déclaré 12 nominations, 12 femmes qui l'accusent de viol. C'est inadmissible. Le président de l'Académie des Césars, Alain Terzian, a déclaré « On n'est pas une instance qui doit avoir une position morale ». Et du côté de la classe politique, le ministre de la Culture, Franck Riester, était l'invité ce matin de la matinale d'Europe 1. On l'écoute.
Le combat contre les agressions et les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles et sexistes, est un combat de tous les moments et il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais qu'il doit rester beaucoup de choses à faire. On ne doit pas confondre l'artiste et son œuvre. D'ailleurs, j'ai condamné à l'époque le fait que certains ou certaines bloquaient les cinémas pour que les spectateurs ne voient pas le film.
Je rappelle que le film a rassemblé plus de 1,5 million de spectateurs lors de sa sortie.
On reste du côté du cinéma. Un nouveau Batman, c'est officiel.
Le réalisateur Matt Reeves a posté une photo. Vous avez eu peur, Philippe ?
Ça m'est parti dans les oreilles. J'ai eu un bad sound dans les oreilles. Poum !
J'ai perdu
deux tympans.
Mais j'ai vu. Le réalisateur Matt Reeves a posté une photo sur Twitter avec ce hashtag Day One, soit jour 1, plus hashtag The Batman. Alors, selon le Daily Record, le tournage se déroule entre Londres et Glasgow. On sait, grâce à quelques photos volées, que Robert Pattinson donc, est Batman. Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Batman est attendu dans les salles obscures françaises le 23 juin 2021.
Et on continue dans l'univers du cinéma et ça se précise, l'arme fatale 5 pourrait se faire.
Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
I hate to say it.
Ça aussi, ça surprend.
Ouais, c'est bien.
Mais oui, c'est petite surprise du journal par
ouais,
Nicolas
j'adore.
Souvent, voilà.
Mmh.
Alors après le 1, le 2, le 3, le 4, 20 ans plus tard, nous pourrions retrouver Mel Gibson et Danny Glover dans un cinquième volet. Les scénaristes travaillent depuis plusieurs années sur différents scénarios. Le producteur de la saga a dévoilé qu'une suite serait en développement chez Warner Bros. Avec la même équipe, donc affaire à suivre.
Et je précise qu'on n'a pas souvent des petites surprises par notre réalisateur Nicolas,
non.
Mais qui s'appelle Nicolas Souvent. Voilà pourquoi.
Ah oui,
c'était
pardon.
Mon impression que c'était les surprises qui étaient souvent. C'est Nicolas qui est monsieur souvent. Salut
il
Nicolas.
Va, il va aimer ça.
Une fête, il nous écoute, je pense. Une fête foraine géante dédiée au hip-hop à Paris.
It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker.
Oh, les paroles sont poétiques.
Et oui, tout dans les épaules, hein, dans la chorégraphie, on n'oublie pas. Le carnaval Classics Only, qui se passe généralement en juillet. Mais pour l'hiver, attention, ce festival, ce carnaval voit les choses en grand. Un hangar de 10 000 mètres carrés à Pantin, donc en région parisienne, avec à l'honneur la culture hip-hop, activité DJ de R&B et de rap. Le collectif organisateur Kassabi a aussi prévu des châteaux gonflables, rodéo, flipper, karaoké. Ça se passera le dimanche 9 février de 12h à 22h. Et évidemment, il y aura de la barba papa.
Ah bon, on va y aller alors.
Pourquoi évidemment?
c'est
dans l'univers du rap.
Bah tout, fête foraine, rap, et voilà, c'est bien, plus on est fou, plus on rit. J'avais envie de le préciser, parce que moi j'aime bien la barbe.
Peut-être des pommes d'amour.
Oui.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Pénélope Bagieux.
Bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour.
Le festival BD d'Angoulême, ça démarre aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous avez seulement 37 ans, c'est ça?
38.
38, ouais. Dans des papiers, il disait 38. Je me dis, je vais
dire
37.
C'est depuis
comme
la semaine
ça.
Dernière.
Ah, c'est plus. Alors, bon anniversaire.
Merci.
Vous avez reçu, mais ce n'était pas un cadeau d'anniversaire, mais c'est bien plus beau comme cadeau aux États-Unis, le Eisner Award, l'équivalent de l'Oscar de la meilleure BD pour Culotté, qui est presque devenu un phénomène. 450 000 exemplaires vendus dans le monde, 17 traductions. Et vous avez encore une actu mondiale, je plaisante pas, la sortie de Sacrée Sorcière. C'est le roman de Roald Dahl adapté pour la première fois en bande dessinée. Alors pour situer Roald Dahl, il a déjà été adapté au cinéma par Spielberg, Wes Anderson ou Tim Burton, c'est Charlie et la chocolaterie. Sacrée Sorcière, c'est une histoire de sorcière, mais ça commence pour vous comme un conte de fées, ce sont les ayants droit qui vous ont contacté, c'est ça, c'est quoi l'histoire?
Qui se sont dit, c'est marrant, on a fait plein de trucs, on a fait des films, on a fait tout ce qui est possible, mais on n'a pas fait de bande dessinée. Et donc ils se sont tournés vers leur éditeur français en se disant que les mieux placés pour faire une bande dessinée, ce seraient les Français. Et donc ils ont contacté Gallimard, qui est mon éditeur, pour leur demander de créer une adaptation bande dessinée. Et Gallimard me l'a proposé à moi.
Juste un mot, j'ai dit 450 000 ventes pour Culotté. Lise Pressac, notre rédac chef, me dit dans l'oreillette, ils en sont déjà à 550 000 rien qu'en France. À la base, je reviens à Sacrée Sorcière. C'est un roman pour les enfants. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu à quel âge?
Je l'ai lu à 8 ans. C'est l'âge qu'a le héros du livre. Ouais. Je l'ai lu pendant les vacances. Et j'étais complètement happée par ce livre, complètement terrifiée. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur en lisant un livre. Donc ça m'a beaucoup marquée.
Et vous l'avez reposé? Ou au contraire, vous vouliez savoir ce qui allait se passer?
Non, c'était terrible. On avait beau m'appeler, il fallait que je sache comment ça se terminait avant de le reposer. Et donc j'ai découvert le suspense en lisant, voilà, pour la première fois. Et en plus, j'ai aussi beaucoup ri, j'étais très émue, parce qu'il y a plein de choses très tristes aussi dans le livre.
Ah, moi, je l'ai dit, je peux vous dire, j'étais très très émue. Le petit garçon, quand on apprend qu'il perd ses parents et qu'il ne veut pas manger, ça m'a touché. J'ai l'impression d'avoir 8 ans, moi, ici. Et j'ai beaucoup ri, parfois à gorge déployée, j'ai éclaté de rire. Comment vous êtes attaqué à un pareil monument?
En essayant simplement de me dire comment je le raconterai à quelqu'un qui l'a jamais lu,
ouais.
Ce qui m'a permis de le raconter à ma façon. C'est du coup mon histoire, d'une histoire que je connais très bien. Donc c'était assez simple en fait.
La grand-mère, c'est votre grand-mère?
Complètement.
Elle clopait, votre grand-mère?
Non, elle clopait pas. Ça, c'est dans le roman d'origine, la grand-mère de Roald Dahl fumait des cigares, donc voilà. Mais sinon, elle a beaucoup de choses empruntées à ma grand-mère.
Mais le petit, parce que moi, j'ai pas lu l'original. Le petit qui demande à sa grand-mère d'arrêter de fumer, c'est votre invention?
Non, c'est dans le roman.
C'est dans le roman aussi. Alors, vous avez fait, il y a des modifications. Vous êtes une féministe déclarée, on va pas vous le reprocher ici. Et vous avez dessiné quelques cases presque pédagogiques pour expliquer ce qu'était une sorcière.
Oui, je me suis dit, tant qu'à faire, si on peut expliquer aux enfants que sous le terme sorcière, pendant très longtemps, ça a juste servi à cacher de la misogynie et à brûler des femmes. Comme ça, on plante ça dans un coin de leur tête, c'est toujours ça de pris.
Vous l'expliquez. À l'origine aussi, le roman, c'est l'histoire d'un petit garçon avec sa grand-mère. Et vous lui avez inventé une copine.
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que je trouve ça chouette que les lecteurs et les lectrices de maintenant puissent aussi avoir le choix, s'ils ont envie, de s'identifier à une fille qui est cool.
Mais quand vous étiez petite, vous lisiez quoi comme BD?
Mafalda.
Et Astérix et Tintin?
Ouais, aussi, mais je préférais vraiment Mafalda quand même.
À cause de ça?
Ben, je ne pouvais pas l'intellectualiser comme ça, mais je trouvais ça chouette de me dire qu'il y avait une petite fille qui pouvait avoir ce genre de réflexion.
Ouais, parce qu'elles sont comment les filles dans Astérix?
C'est-à-dire qu'il y a Bonne Mine qui fait chier son mari, et puis sinon il y a Falbala qui est belle et qui dit rien. Quoi.
Ouais.
C'est bien, hein, mais bon.
Je sais. Est-ce que vous étiez libre d'adapter l'œuvre de Roald Dahl, ou est-ce qu'alors vous avez dû faire valider vos inventions? Comment ça s'est passé avec les ayants droit? Parce que c'est pas anodin.
Non, en fait, on a avancé un peu ensemble. C'est-à-dire que d'abord, je leur ai expliqué comment je voyais les choses. Je les ai prévenus qu'il allait y avoir des gros changements pour qu'ils n'aient pas trop un choc.
Ouais.
Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, je leur envoyais mon storyboard, mes crayonnés, et ils me faisaient des retours qui étaient toujours... Le petit-fils de Roald Dahl, Kelly, me faisait des retours qui étaient à chaque fois très pertinents.
Et le petit-fils, c'est pas lui son histoire?
Mais si, c'est lui, c'est Luc.
C'est juste complètement dingue.
Donc il y tient beaucoup à ce livre.
Je vais faire un compliment. Chaque case, c'est une merveille, ou presque. Les cadrages, les couleurs, le style, vous avez travaillé combien de temps?
Un an et demi.
C'est beaucoup, c'est peu ?
Ben, pour faire 300 pages, c'est pas beaucoup quand même.
C'est vrai.
Ouais, j'ai bien bossé.
Mais vous travaillez où ?
Je travaillais partout parce que j'ai fait cet album sur un iPad, ouais. Sans vouloir faire de placement produit. Et du coup, j'ai pu travailler dans tous les avions, tous les trains. J'étais en promotion pour les culottés, donc j'étais tout le temps en voyage. Et j'ai pu vraiment profiter de chaque minute pour avancer.
Parce qu'il faut expliquer, il y avait une deadline, parce qu'il va y avoir une autre adaptation d'une œuvre de Roald Dahl, c'est ça, le film de Zemeckis.
C'est ça, il y a le film de Zemeckis qui sort la même année, et du coup c'était quand même bien que chacun puisse exister, avoir un peu de temps.
Voilà.
Donc c'était ennuyeux si mon livre sortait trop tard.
Le mot savant qu'on dit dans ces cas-là, il ne faut pas se cannibaliser.
Tout à fait.
On ne va pas vous manger, Pénélope Bagieu, vous restez avec nous. Quoi que si, on va voir à quelle sauce vous allez être mangé
par
Hélène Manarino, c'est pas vrai. Elle est en train de tournicoter sa sauce.
Qui est notre invitée, grâce à Hélène Manarino, on va tout savoir de vous, Pénélope Bagieu, un portrait inattendu, on va voyager dans votre vie et on a hâte. Patience, c'est dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Mais oui, Pénélope Bagieu, je vous ai dit, on se demandait à quelle sauce vous alliez être mangée. Voici la cuisinière en chef, Hélène.
Ce sont que des ingrédients bienveillants. Bonjour, Pénélope Bagieu. Je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Des dossiers. Alors, je sais que vous avez envie de me répondre Jésus-Marie-Joseph, ce que vous dites dès que ça vous étonne. Vous pouvez. Alors, Pénélope Bagieu, lorsque vous étiez petite, vous avez formulé deux souhaits, être reine d'Amérique. Pourquoi pas ?
C'est vrai.
Et puis l'autre, vous avez déclaré « Quand je serai grande, je m'installerai à une table et je vendrai mes dessins. » Chose faite. Alors, installons-nous à cette table et contemplons toutes les facettes de votre bulle. Des bulles qui peuvent partir dans tous les sens, mais ce qui fait votre charme. Alors, vous ne rangez jamais vos affaires, vous oubliez votre valise dans le train et vous prenez celle d'un autre. Vous en êtes rendu compte à l'hôtel en l'ouvrant,
super,
évidemment.
Les slips de mec, ça doit être super.
Vous avez perdu votre carte bleue avant de partir au Japon, mais heureusement qu'une de vos amis était là pour vous prêter la sienne. Aucun sens de l'orientation. En sortant de chez vous, vous ne savez toujours pas s'il faut aller à droite ou à gauche.
C'est vrai.
C'est vrai. Pourtant, c'est pas compliqué, le quartier. Hein.
Mais ce qui vous donne aussi envie de tout explorer, déjà sur le plan musical. Merci. Véritable jukebox, lorsque vous étiez aux Arts Déco, vous vous échangez régulièrement vos playlists entre amis. Des playlists dites cohérentes par thème. Vous avez quand même créé la playlist « Chanteurs morts ». Alors, dans ces playlists, il y avait toujours une chanson mystère, c'est-à-dire la chanson qui n'avait rien à voir avec le reste de la playlist. Alors, on va jouer avec votre playlist actuelle. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de cohérence. Voilà, vous vous prenez souvent pour Dalida. Eh bien oui, vous la connaissez par cœur, cette chanson. Complètement.
Plutôt fin de soirée. Hein.
Ah bah oui, toujours. On y vient, ça. Vous pouvez devenir une rockeuse dans l'âme là-dessus.
C'est qui ça, Pénélope ?
Un petit groupe pas très connu.
Dites le nom pour ceux qui l'ont
parlé. C'est les Guns N' Roses, bien sûr.
Évidemment. Alors, surprendre vos amis en soirée avec celle qui a été d'ailleurs une chanson mystère dans l'une de vos playlists.
Oh non.
Oh putain, cœur de loup. La victime est si belle.
Eh oui, cœur de loup. C'est peut-être sur l'une de ces chansons que vous lancez votre jeu préféré en fin de soirée. Alors attention, on va expliquer, c'est faire l'amour au mobilier.
Ouais, voilà. Je crois que je commence à comprendre à qui vous avez parlé.
Ouais.
Avec un vrai top départ et au top, il faut changer de meuble. Voilà. Des soirées que vous terminez...
Attends, j'ai envie de savoir, ça ne veut pas faire l'amour au mobilier.
Bah, c'est de danser en se frottant au meuble.
Ouais.
Voilà, de façon suggestive.
D'où la fin de soirée.
Ouais. Ne nous invitez pas chez vous.
Des soirées que vous terminez souvent à 4h du matin avec des nuggets d'un célèbre fast-food. Vous vous promettez d'arrêter, mais rien n'y fait. Vous replongez dans cette bulle gourmande, Pénélope Bagieu. Alors, il y a une bulle qui ne s'est jamais envolée. C'est votre bulle d'enfance. Une enfance que vous passez souvent en Corse, en refaisant le monde, sur le ponton de la plage. Aujourd'hui, vos passages à la plage sont toujours accompagnés d'un animal gonflable à qui vous donnez des petits noms que je ne peux pas dire sur Europe 1.
Je suis 25. Vraiment sûre de savoir à qui
c'est quoi les petits noms ? Moi, j'ai envie de savoir.
Non. Après, on
ne peut pas. On peut pas dire.
Je les donnerai demain. Écoutez-nous, dès le début de l'émission à 9h05, je donnerai tous les noms des animaux de Pénélope Bagieu.
Une enfance où vous avez été à l'origine de la plus grande fugue des enfants d'amis. Vous êtes tous allés vous cacher dans les champs sans prévenir personne et c'était votre idée.
Oh, les parents,
une
peur.
Enfance aujourd'hui qui se traduit par votre côté mauvaise joueuse, c'est vrai, mais surtout pour votre passion galette des rois frangipane. Et si vous n'avez pas la fève, c'est un scandale.
Je trouve que c'est assez injuste parce que c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est la moindre des choses, voilà.
Alors, la reine Pénélope, ah oui, la reine, rien d'étonnant que vous avez parodié l'émission Carpool Karaoké, c'est-à-dire donc un karaoké dans une voiture avec votre meilleure amie, sur un titre de la Reine des Neiges d'ailleurs. Alors, nous avons le son, et je précise que c'est vous que l'on entend.
L'amour est un cadeau.
L'amour est un cadeau.
Pas mal.
Pas mal.
Dis donc, vachement
beaucoup
bien.
D'entraînement.
Ouais. Oui, beaucoup. Alors, Pénélope Bagieu, il y a une autre reine que vous aimez beaucoup et avec qui vous avez vécu l'un des meilleurs moments de votre vie. Elle dirige le monde. Beyoncé.
Queen Bee.
Queen Bee, ah bien oui, on connaît. Que vous êtes allé voir en concert au Stade de France et vous avez vécu quelque chose que vous ne revivrez plus jamais lors de ce concert. Il y avait aussi le match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Ce qui vous a permis d'attendre donc votre idole tout en contemplant l'homme que vous aimez par-dessus tout, Antoine Griezmann.
Ah bon ?
Et oui, nous sommes sur une énorme passion Griezmann avec Pénélope Bagieu.
Oui, ouais, c'est vrai.
Toujours ?
Oui, je suis pas 100% indifférente, voilà.
Il nous écoute.
Alors, vous avez pleuré plusieurs fois en voyant Beyoncé, en voyant Griezmann sur cet écran géant, et lorsque nous avons été évidemment champions du monde, beaucoup trop d'émotions et souvenirs inoubliables surtout. Alors, Pénélope Bagieu, vous êtes aussi une amie capable de beaucoup de choses, comme surmonter votre phobie de l'avion pour assurer l'un de vos amis qui a peur aussi, faire semblant d'aller bien par amitié. Et aujourd'hui, votre bulle, qui n'est jamais fermée, rassemble votre passion pour le yoga et votre nouveau défi, apprendre le russe. Alors personne ne sait pourquoi.
Non, c'est vrai.
Ajouter une bulle à votre art, sûrement. Alors Pénélope Bagieu, une bulle culottée qui a osé jeter son projet de première année d'art déco avant de le rendre et donc de n'avoir rien à montrer parce que ce projet ne vous plaisait pas. Une bulle libre, finalement, qui est devenue une véritable bulle d'air.
Merci beaucoup, Hélène. Réaction ? C'est
voilà,
vous ?
J'ai plein de textos à envoyer.
En russe ?
Non, c'est hyper émouvant. J'ai vraiment les meilleurs copains de la Terre, quand même.
C'est vrai.
Vous faites quoi ce soir ?
Ce soir.
Non, mais est-ce qu'il y a une ambiance sexe mobilier à la soirée ?
Pas de sexe mobilier parce que là, c'est une ambiance Angoulême, donc c'est beaucoup moins sexe.
Ah ouais.
Mais peut-être avec des nuggets.
Oh là là.
On espère des nuggets.
Pénélope Bagieu, notre invitée, avec elle dans un instant, on découvrira nos indispensables du jour. On parlera bande dessinée encore avec Mathieu Charrier qui se trouve à Angoulême pour le lancement du festival de la BD. On se retrouve tous dans un instant sur Europe 1.
h 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Beaucoup de duplex aujourd'hui hein, oui. Dans nos indispensables. Thierry Geffrotin qu'on va retrouver à Nantes dans un instant. Mathieu Charrier pour le festival de la bande dessinée à Angoulême. Et ça tombe bien, notre invité ce matin, c'est Pénélope Bagieu, autrice et dessinatrice qui adapte le conte Sacré Sorcière de Roald Dahl pour Gallimard en bande dessinée.
On va rejoindre tout à l'heure Mathieu Charrier au festival de la BD d'Angoulême qui débute aujourd'hui. Emmanuel Macron est attendu sur place également aujourd'hui. Première fois depuis François Mitterrand qu'un président en exercice sera au festival. C'est une bonne chose selon vous ou c'est de l'affichage ? Ou ça vous est indifférent ?
Je pense que c'est de l'affichage. Sincèrement, c'est 2020 et l'année de la bande dessinée.
Ouais.
Donc on attend beaucoup de résultats concrets de ça et j'espère que ça ne se limitera pas à un déjeuner, une photo, mais pourquoi pas.
On va suivre. Les ventes de BD ont bondi 9% l'année dernière, sauf que le tableau économique n'est pas rose. Il y a de plus en plus de livres qui sortent, donc de plus en plus d'auteurs. Et un tiers des auteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'il y a une solution ? Comment remédier à ça ?
En fait, c'est paradoxalement à la fois un des secteurs de l'édition qui se porte le mieux.
Oui.
Je crois que c'est 500 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Donc vraiment, ça fait rêver la plupart des autres secteurs de l'édition. Et pourtant, effectivement, un tiers des auteurs sous le seuil de pauvreté, mais le reste pas tellement au-dessus du seuil de pauvreté. C'est que c'est vraiment un métier très précaire, de plus en plus précaire. Et il y a beaucoup d'auteurs qui laissent tomber la bande dessinée parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Donc on adore la bande dessinée, c'est super, mais enfin au bout d'un moment, il n'y a plus d'auteurs en fait. Et donc il faudrait de l'argent, en fait.
Il faudrait de l'argent, mais parce que l'argent, il faut bien que quelqu'un le sorte. Il sort 5000 albums de BD par an en France. On peut dire que c'est un signe de bonne santé, mais on ne va pas interdire aux éditeurs de publier des livres. Le marché, du coup, est très, très morcelé. On ne va pas non plus vendre les livres 100 euros le livre.
Non, et simplement, il faudrait mieux répartir l'argent, puisque la personne qui crée la richesse est la moins rémunérée de toute la chaîne. Un auteur de bande dessinée, en moyenne, il gagne 8%
d'un livre
hors taxe d'un livre.
C'est pas vrai.
Il faut se rendre compte de ça, c'est qu'en général, un auteur gagne moins d'un euro par livre. Donc, pour qu'il puisse en vivre, il va vraiment falloir qu'il en vende beaucoup. Alors, tout le monde doit trouver ça, son compte dans le fait de faire un livre. Les éditeurs ne sont pas des ONG, mais il y a clairement un problème de répartition. Donc, il faut remettre à plat ça et se demander à qui va l'argent.
Mathieu Charrier, à qui va l'argent?
Pas moi non plus, je vous rassure.
On vous retrouve en direct d'Angoulême. Ça s'est ouvert hier soir, le 47e festival de la bande dessinée. Et vous avez sélectionné pour nous trois expositions. Vous commencez par celle qui est consacrée à Catherine Meurice.
Oui, qui est devenue il y a quelques jours la première dessinatrice à être élue à l'Académie des Beaux-Arts, rien que ça. Alors il faut dire que ça fait des années maintenant que sa fantaisie et son trait nous enchantent. Dans l'exposition, vous découvrirez notamment son cahier d'écolière en primaire. Elle avait une dizaine d'années, déjà elle dessinait, elle n'a jamais arrêté. C'est assez touchant de découvrir ça. Il y a une partie de l'expo consacrée aussi à ses influences. Alors Tom Ingerer, Quentin Blake, Gottlieb, Bretéché, une autre bien sûr dédiée à sa période de dessinatrice, c'est Charlie Hebdo, avec les 19 unes qu'on lui doit entre 2005 et 2015. L'attentat, lui, n'est pas abordé directement, mais il y a une vidéo incroyable dans laquelle elle feuillette le carnet qui a ensuite donné son album La Liberté. C'est ce carnet qui lui a servi de catharsis et permis de s'en sortir, elle le raconte. Alors elle ne peut plus s'en passer, impossible donc pour elle de le laisser dans l'expo. Il y a quelques semaines, Catherine Meurice sortait un album consacré au peintre Delacroix, et voilà donc cette rétrospective à Angoulême. Rétrospective, le terme l'a fait beaucoup rigoler.
Quand j'ai vu ça, j'ai pris un petit coup de vieux quand même. Donc c'est, je me suis rendu compte que ça faisait 15 ans que je travaillais, de voir défiler toute sa vie, enfin assez troublant, mais c'est drôle. J'ai vu certains dessins de Charlie dont je me souvenais plus du tout et qui sont assez gonflés, que j'oserais peut-être même plus faire aujourd'hui, enfin voilà, les temps changent. Et par ailleurs, je m'essayais à la bande dessinée le week-end quand je bossais pas à Charlie, donc c'était important aussi pour moi aujourd'hui, 5 ans après ce qui s'est passé à Charlie, de récupérer, de rassembler un peu mes petits et surtout de ne plus rien abandonner dans l'espoir de ne plus rien perdre.
Voilà, je vous encourage vraiment à lire ou relire Catherine Meurice, à venir découvrir aussi cette expo qui retrace le parcours de cette artiste exceptionnelle. Il y a près de 120 dessins originaux, plusieurs vidéos aussi, c'est passionnant. Ça s'appelle Catherine Meurice, Chemin de travers, c'est au Musée du Papier d'Angoulême. Et puis bonne nouvelle, ça dure jusqu'au 1er mars, donc ça continue après le festival.
Ça vous fait sourire, Pénélope Bagieux, l'idée de rétrospective. Il n'y en a pas encore pour vous?
Non,
et pourtant vous
ça
êtes plusieurs.
Tarder.
Non, ça va pas tarder, non, il ne faut pas lui souhaiter ça. En général, quand on a un César d'honneur, c'est qu'on va mourir dans l'année, donc surtout pas. Deuxième expo que vous nous conseillez à Angoulême, Mathieu, c'est celle consacrée à Pierre Christin.
Oui, le scénariste Pierre Christin, parce que c'est vrai que dans la bande dessinée, les scénaristes ont longtemps été moins bien traités que les dessinateurs. Ça évolue, mais c'est pas encore ça. Pierre Christin, il a commencé la BD dans les années 60. On peut dire qu'il a écrit pour tous les genres de la bande dessinée. Évidemment, la science-fiction avec Valérian, dessiné par Mézières, mais aussi le fantastique. On pense aux légendes d'aujourd'hui qu'il a fait avec Bilal. Le polar, l'espionnage avec Léna, dont un troisième tome vient d'ailleurs de paraître, de sortir chez Dargo, je vous le conseille. Il est aussi un grand voyageur et ça se retrouve dans son œuvre. C'est une expo à la première personne, c'est-à-dire il s'y raconte lui. Et il revient notamment sur ses débuts en BD.
Mon père tenait un petit salon de coiffure et du côté des rayons hommes, il y avait des illustrés. Et donc j'ai pris l'habitude de lire jeune, mais je venais dans un milieu où personne n'aurait osé dire « je deviendrai écrivain ». Et puis Jean-Claude Mézières était un petit voisin. Quand on avait 15-16 ans, où un troisième larron est arrivé, qui était Jean Giraud. Et évidemment, quand Jean Giraud a ouvert ses carnets de dessin, ah, ça a été un choc. Tout ça a fini par donner qu'on s'est tous retrouvés à pilote, quoi.
Voilà, 120 ploches dans cette expo à Angoulême avec des dessins de Bilal, de Mézières, de Juillard, d'Annie Gottsinger aussi, là aussi, Stan Paraté.
Voilà, et Jean Giraud qui était le vrai nom de Moebius. Enfin, dernière expo que vous nous conseillez à Angoulême, elle est cette fois consacrée à Lewis Trondheim.
Oui, Lewis Trondheim fait des histoires, c'est le titre. Alors Trondheim, c'est notamment le personnage de Lapino, la série d'Heroic Fantasy Ralph Azam, la série Donjon avec Sfar. Et cette exposition présente 150 originaux, des planches, des illustrations, des carnets pour comprendre son travail de création. Il y a aussi un dessin dans lequel il se représente en chat. C'est assez amusant parce que Trondheim, il ose tout.
C'est l'avantage de la bande dessinée, on est très libre, on a un papier, on a un crayon, et la seule limite c'est notre capacité à dessiner en fait, contrairement au cinéma ou à la télévision où il faut des compromis tout le temps. Donc on y va, c'est un lieu merveilleux pour jouer ce domaine de la bande dessinée.
Lewis Trondheim fait des histoires au musée de la BD. Là aussi, ça ouvre à l'occasion du festival et ça dure jusqu'au 1er mai. Donc, si vous avez l'occasion de passer par cette très belle ville d'Angoulême, foncez. Puis je vais réserver les nuggets pour Pénélope. Alors,
Pénélope, je voulais dire quelque chose.
Oui, je voulais dire, il y a toutes les expos à Angoulême ont l'air super et j'ai vraiment très hâte, notamment de voir celle de Catherine. Et en général, j'ai le temps d'en voir qu'une. C'est ça le problème. Mais il y a également une expo de Kishiro, qui est le mangaka qui a fait Gunm, qui est le manga qui m'a fait relire de la BD quand j'étais ado. Il va y avoir ses originaux, ça va être magnifique.
Vous l'avez vu celle-ci ou elle n'est pas encore en place, Mathieu?
Si, si, elle est en place, j'y vais juste après. Pour ne rien vous cacher.
C'est incroyable.
La chance.
Et après, des nuggets. Vous allez quand, voilà, Angoulême?
J'y vais demain matin.
Ah, vous allez rater le président Macron, mais vous allez trouver Mathieu Charrier. Vous restez avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Pénélope Bazieux qui est notre invitée ce matin dans Culture Média. On va revenir à son actualité dans un instant. Avant, Philippe, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour. C'est avec Thierry Geffrotin et on va partir du côté de Nantes.
Mais oui, bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes à Nantes pour la folle journée qui, comme son nom l'indique, est au pluriel. C'est sans doute le plus grand festival de musique classique en France. Et cette année, c'est Beethoven qui est à l'honneur.
Vous avez reconnu, Philippe?
Alors, j'ai reconnu, je veux dire ce que je pense que c'est. On dirait l'hymne à la joie de Beethoven, salopé par la fanfare des Beaux-Arts.
Oh non, vous n'êtes pas gentil, c'est pas salopé. Et d'ailleurs, ma question, c'est pas vous avez reconnu l'œuvre, oui. Est-ce que vous avez reconnu les instruments?
Oui, il y a ce steel band dont on joue avec. Comment ça s'appelle? Dont on joue dans les Caraïbes.
Ce sont des bidons métalliques.
C'est ça.
Ce sont
bien
des
sûr.
Bidons. Et c'est un orchestre d'une dizaine de musiciens venus de Trinidad.
Exactement.
Qui joue donc la 9e, l'hymne à la joie. La preuve que Beethoven peut se jouer sur tous les instruments. C'est d'ailleurs l'une des originalités de la Folle Journée, qui est un festival un peu plus classique, hein, je dois vous le dire, mais qui accueille aussi des formations originales. Par exemple, la fanfare FMR, qui a joué hier soir une transcription pour cuivre de la 5e symphonie, rien que des cuivres.
C'est pas mal.
Ouais.
C'est original, on dirait une musique de film en fait.
Oui, c'est un peu de Williams.
Ouais, ouais. Beethoven, donc à l'honneur Thierry cette année. La folle journée, je l'ai dit, c'est au pluriel en fait. Ça dure 5 jours, vraiment 5 jours de Beethoven.
Ah écoutez, alors 2020, c'est le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Forcément, la folle journée se devait de lui faire la fête. Alors au total, 274 concerts.
Oh là là.
Le principe ne change pas. Ah ouais, ouais. Le principe ne change pas. Moins d'une heure par concert, des petits prix, un lieu unique, le centre des congrès, pour accueillir, écoutez bien, 1800 artistes en 5 jours. Évidemment, il y a des orchestres symphoniques, donc ça fait du monde. Et 150 000 spectateurs. Moi, je suis depuis hier. Ouais. Hier, ça aller, puis là ça va aller crescendo. Je peux vous dire que cet après-midi on attend 40 000 personnes. René Martin, le créateur de la Folle Journée, est particulièrement fier cette année parce qu'en 5 jours, pratiquement toute l'œuvre de Beethoven sera donnée à Nantes.
On a l'intégrale des symphonies, l'intégrale des trios avec piano, l'intégrale des sonates pour piano et violon, l'intégrale des sonates pour piano et violoncelle, l'intégrale des quatuors, l'intégrale des 32 sonates qui seront jouées deux fois, et puis aussi presque l'intégrale des mélodies et des quatuors vocaux, puisqu'il a écrit beaucoup de pièces très rares, des airs irlandais, des airs écossais. Et on joue presque 500 opus, il en a composé 650.
Le 4e concerto pour piano et orchestre de Beethoven, donc l'une des 500 œuvres données durant la folle journée. Allez, pour finir, un cadeau, Philippe, une rareté, je pense que vous ne l'avez jamais entendue. C'est une mélodie irlandaise, donc une mélodie populaire, harmonisée par Beethoven.
C'est assez intéressant.
C'est chouette. Hein.
Céline Dacosta joint ses mains et c'est vrai que ce serait joué dans une église. Il y aura un côté sacré. Mmh.
Oui, alors que c'est vraiment, c'est, en fait, c'est l'adieu à une bien-aimée.
D'accord. Hein. Voilà. Donc c'est profane. En tout cas, c'est Beethoven. Profane. Juste un mot, il y a un lieu unique, mais il y a plusieurs salles de concert.
Ah, évidemment. Alors là, ça va être un des congrès. Alors, vous avez un auditorium de 2000 places, un autre de 800, des petites salles où on met 200 personnes. Alors, il faut voir, faut avoir vu la Folle Journée une fois dans sa vie, hein, parce que ça court dans tous les sens. Les gens, ils sortent d'une salle pour aller dans une autre. Et je peux vous dire que bah, moi, hier, j'ai fait 10 000 pas. Hein.
C'est vrai ?
J'ai fait mes 10 000 pas, oui, oui, oui.
C'est vraiment bien. En plus, on fait du sport.
En plus !
Un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup, Thierry Geffrotin. Vous restez tout le week-end à Nantes ?
Pas tout le week-end, parce que je vous disais qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, le samedi et le dimanche, là, c'est l'enfer. Il y a d'accord. trop de monde pour moi.
Non, mais ne dites pas qu'il y a trop de monde, parce que les gens vont pas vouloir y aller, Thierry.
J'ai dit
le
pour type... moi.
Ah, d'accord,
j'ai dit pour
vous.
Moi.
Alors, je vous dis aux gens, allez-y, le samedi et le dimanche, vous serez certain de ne pas croiser Thierry Geffrotin. Merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse depuis Paris.
Et on reste merci. Sur Europe 1. La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invitée Pénélope Bazieux.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec nous, Pénélope Bazieux, autrice et dessinatrice qui a adapté le conte Sacré Sorcière de Roald Dahl pour Gallimard, bande dessinée, Philippe.
8 millions de Français lisent régulièrement de la bande dessinée, c'est un bon chiffre, c'est devenu un art adulte. On est le seul pays dans ce cas, dans plein de pays, c'est un art d'enfant la BD.
Ouais, ou d'ado, ou d'adultes qui ont gardé une âme d'enfant, comme on dit.
Parce que je voudrais revenir sur le tourbillon qui a été le succès de Culotté. Je le disais, 550 000 livres vendus, rien qu'en France, dans le monde c'est encore plus. Vous êtes retrouvé à donner des conférences sur le féminisme en Russie, en Corée du Sud. C'était comment ?
C'était assez dingue et assez dépaysant. Mais c'était inattendu.
Et qui était votre public ? Parce que vous dites que la BD, parfois, c'est comme un cheval de Troie.
Ouais, c'était des souvent des femmes quand même et des filles, et voilà, mais qui étaient là un peu par curiosité parfois, et puis ça a amené des conversations qu'elles n'avaient pas forcément prévu d'avoir. En Russie, par exemple, parler de féminisme avec des femmes en Russie, ça laisse assez circonspect. Quoi.
Pourquoi ? Quel était le genre de questions qu'elles vous posaient ?
Bah, c'est pas des questions, c'est qu'elles me disaient, alors nous en fait on n'a pas besoin de ça parce que nous c'est bon, non merci, on veut pas avoir plus de droits et tout, ça nous intéresse pas.
Ah, on est bien avec les mecs comme ça, ça leur allait très très
elles
bien.
Elles disaient, nous on a mieux que ça, c'est qu'on utilise les mecs. Et donc c'est compliqué d'expliquer que vous n'utilisez pas vraiment les mecs en fait.
Le livre est sorti aux États-Unis. Ouais. Avec ce paradoxe, vous affirmez votre liberté. En même temps, vous avez dû masquer les tétons des femmes, retirer les sexes des statuts d'hommes. C'est un combat à mener tout le temps, le féminisme. Ou est-ce que c'est la liberté aux États-Unis qui prend une définition particulière ?
Là, ça dépasse le féminisme, la bigoterie des Américains. En fait, c'était parce que le livre... la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on veut qu'un public jeune y ait accès ou pas ?
Ouais.
Et si oui, il va falloir jouer avec ces codes-là. Et finalement, est-ce que cacher trois tétons, mais parler d'une activiste qui s'est battue pour l'avortement ? Finalement, moi, je trouve que j'y gagne. Voilà.
Donc, vous avez pris ce compromis. En parlant de ça, vous avez vu qu'aux États-Unis, le président Trump a pris part, il y a quelques jours, à une manifestation de gens qui veulent interdire l'avortement. Mmh. Quelle réaction ça suscite chez vous ?
Ça ne m'étonne pas du tout. Il l'avait dit, de toute façon, avant même son élection, qu'il serait le président le plus anti-avortement qui ait jamais existé. Et de toute façon, c'est un droit qui est tellement grignoté aux États-Unis depuis des années que finalement, faire avancer à visage découvert et annoncer ouvertement que c'est ça son projet, je ne suis pas très étonnée. Mais après, je suis terrifiée. Voilà.
Voilà. Vous avez l'impression que le féminisme, votre cause, progresse ou que c'est à chaque fois comme... pardon, je viens d'y penser à l'instant. Comme le travail de Pénélope, il faut recommencer chaque jour son ouvrage.
Notre cause, pas ma cause.
Mm-hmm. Ça avance... Non, parce que je pensais à Pénélope, la femme d'Ulysse.
Oui, j'ai bien compris. J'ai la ref.
Voilà.
Mais je pense que ça avance, mais très lentement. Et en fait, surtout... Sauf en étant extrêmement vigilante, ça recule systématiquement aussi. Donc il faut pas partir du principe que les choses sont acquises à chaque fois. Il faut se dire, c'est très probable que dans 10 ans, je dois continuer à me battre pour quelque chose qu'on a déjà obtenu, mais sur lequel on va essayer de revenir toujours.
Actualité culturelle immédiate d'aujourd'hui. Commentaire sur les 12 nominations de Roman Polanski au César.
Ça me désespère. C'est tellement un pied de nez à tout ce qui a été fait, à tout ce qui a été dit. De dire oui, mais peu importe, on va quand même le célébrer. Au moins, ça tord le cou à l'idée que les accusations peuvent briser la carrière de quelqu'un, parce que vraiment, sa carrière, elle n'est pas du tout brisée. Bon, il y a Céline Sciamma qui est en sélection aussi, voilà, ça fait toujours ça de prix.
Et il y aura Adèle Haenel, pardon, qui sera aussi sur scène.
Oui, donc on lui fait confiance.
On imagine ce que va dire Adèle Haenel si on lui laisse la possibilité de monter aussi à le prix et si elle est au micro.
Ouais. Là, on sort le pop-corn, oui.
Ce qu'elle va dire. Tout à fait autre chose, qui sont vos idoles musicales de jeunesse ?
Mes idoles musicales de jeunesse, Freddie Mercury.
Ouais. Ouais. Il faut faire attention à ce qu'on raconte, parce qu'on a retrouvé le podcast, les reines du podcast, s'appelle Radio Cassette, elle s'appelle Manu Minel. Et vous avez fait quand même une sacrée révélation, vous étiez fan des Spice Girls.
Ouais. Moi j'avais l'âge où c'était un peu la honte d'écouter les Spice Girls, ouais. J'étais trop vieille. Mais bon, j'avais des copines qui avaient des petites sœurs, donc on avait un prétexte pour quand même écouter. Évidemment, on était complètement fascinés par elles parce qu'elles avaient des super looks et qu'elles chantaient trop bien, etc. Mais du coup, on était un peu trop vieilles pour le message girl power parce que du coup, nous on le questionnait un peu.
Mmh, déjà.
Ouais. Bah, oui. C'est-à-dire que c'était super de dire ouais, elle est les filles girl power. Mais moi, je me souviens aussi par exemple d'une couverture de Star Club avec une interview de Mel C où la citation qui était retenue en exact pour l'article c'était je ne suis rien sans mon Wonder Bra.
Vous avez oublié ce truc-là.
Non, et aussi, elle disait que la première femme à avoir vraiment fait du girl power, c'était Thatcher. Donc, c'était quand même un féminisme avec ses limites. Mais...
Vous étiez qui, vous, dans les Spice Girls ?
Ben, j'étais Ginger, j'étais Jerry, bien sûr.
Ah oui ?
Ben oui, c'était la plus cool, on voulait tout être Jerry.
Extrait musical. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Vous connaissez votre prochain projet ?
Je travaille sur la promotion de ma BD, c'est mon travail à plein temps.
Vraiment ?
Ouais.
Vous avez quoi comme programme ?
J'ai Angoulême demain déjà, ouais. J'ai un petit mois de promotion et après je commence ma promo américaine dans la foulée. Donc,
le livre va sortir dans quelle langue ?
J'ai pas la liste, mais...
Donc déjà, il y a une liste.
Oui,
c'est quand même une très très bonne nouvelle.
Mais surtout, il sort aux États-Unis cet été, donc...
D'accord.
Je vais retourner au Comic-Con.
Ouais, et ce que je voulais vous entendre raconter, c'est que vous avez écrit ce livre en faisant la promotion de Culotté.
Ouais, en fait, oui.
Donc en fait, pendant que vous faites la promotion de celui-ci, vous allez faire lequel ?
J'ai pas d'idée. Et
c'est pas vrai.
Je pense que toutes les idées que je vais avoir là en ce moment, ça va être des idées nulles, parce que... J'ai pas l'esprit tranquille. Donc, si jamais j'ai une idée, il faut absolument l'acheter, là. C'est sûr qu'elle est nulle.
À quel moment vous faites la différence entre une fausse bonne idée et une bonne idée ?
Quand je commence à dessiner et que je me dis que je m'ennuie pas.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai plein de super idées et à la première case, je me dis, ouais, je vais plutôt faire de la compta. C'est mauvais signe.
Vous faites pas de compta.
Mais si, bien sûr, c'est ça aussi, être
ah bon
artiste, c'est faire sa compta. Mais
c'est-à-dire
oui,
raconter.
Faut le dire. Ben c'est faire sa TVA, c'est faire des choses comme ça.
Et tout à l'heure, hors antenne, on a parlé de quelque chose dont nous parlions hier avec le patron de la SACD. Vous parliez même de retraite, des droits des dessinateurs. Je ne voyais pas les choses comme ça. Je pensais que c'était un métier d'artiste complètement éthéré et complètement hors sol.
C'est ça. Ben pourtant, non, on a aussi des loyers à payer. Et on n'attend pas les muses avec un pinceau dans notre atelier, en vrai. On passe la moitié de notre temps à faire des trucs chiants.
C'est vrai. qu'est-ce que vous lisez en ce moment comme bande dessinée, si tant est que vous en lisiez, Pénélope Bagieux ?
Qu'est-ce que je lis là ? J'ai commencé le dernier Michel Rabaliati, édition La Pastèque, qui est un auteur québécois que je recommande à tous les gens qui pensent qu'ils n'aiment pas la bande dessinée, puisque c'est 100% de réussite à chaque fois, ils adorent. C'est toute une série de livres avec un héros qui s'appelle Paul et qui raconte les différents âges de la vie d'un jeune adulte, puis adulte. C'est une BD qui peut faire rire et pleurer à une page d'écart, ce qui est quand même pas mal.
Ouais. Ça me fait sourire parce que vous avez pu vous identifier à un mec. Vous êtes très très forte. Dans le Parisien mardi, ils lui ont demandé ce que Pénélope Bagieux, je me tourne vers Céline Dacosta, ce qu'elle lit en ce moment. Non mais je me suis dit, c'est pas possible, elle lit pas ça. L'intégrale Picsou.
Ouais, ouais, à fond. Ouais, ouais, de Don Rosa. Ouais, ouais, ça c'est génial, ça on peut le lire toute la vie.
Mais c'est pas l'intégrale Picsou. En fait, c'est refait, c'est un vrai faux Picsou.
Non, 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 c'est la jeunesse de Picsou et c'est toute l'histoire. Et en fait, ça parle de l'histoire de l'Amérique.
Ouais.
Mais toujours avec Picsou, il rencontre Roosevelt, il y a la ruée vers l'or.
D'accord,
tout ça.
Mais c'est pas un préquel.
Non, c'est vraiment comment Picsou est devenu Picsou. Et il est horrible dedans. C'est vraiment une saloperie. Il est pas du tout sympa. Et il exploite des tribus pour leur voler leur or. Il est horrible. Mais c'est Don Rosa qui a écrit la jeunesse de Picsou.
Mais me dites pas qu'il a envie de devenir éditeur de bande dessinée.
Quand même pas. Il n'aime pas assez l'argent.
Non. Voilà. C'est chez quel éditeur, vous l'avez dit ou pas ?
C'est chez Glénat.
Voilà. Et alors, on peut trouver chez Gallimard. Alors, juste un mot. Gallimard, c'est Gallimard bande dessinée ou Gallimard jeunesse ?
Gallimard bande dessinée fait partie de Gallimard jeunesse, parce que comme chacun sait, la bande dessinée, c'est pour les enfants.
Voilà. Non, mais justement, elle le dit, c'est une antiphrase. Merci beaucoup, Pénélope Bagieux. Je rappelle la BD.
Merci, Cœur de Loup, on t'embrasse.
J'aurais jamais pensé entendre Cœur de Loup dans cette émission. En plus, j'ai dit à mon équipe, tu vois, Pénélope Bagieux, elle est géniale, elle a des références culturelles top. C'est le haut du haut du haut du panier.
Mais en vrai, tout le monde aime cette chanson, il faut le dire, voilà.
Mais voilà.
De Philippe Lafontaine, bien sûr. Voilà.
On l'embrasse.
On l'embrasse. La BD Sacrée Sorcière, c'est chez Gallimard, BD ou Jeunesse, c'est pareil. Merci à tous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Il y aura Arthur et Alexandre Devoise qui vont se mettre à poil, presque. Ils vont nous parler de l'émission Star à nu sur TF1. Et c'est une émission avec un véritable engagement. C'est pas fait pour voir des kikis. Et puis Bruno Solo pour la pièce de théâtre 10 ans après. 10 Years After, c'est un de mes groupes préférés. J'y pense seulement à l'instant. Salut Pénélope. Merci. À demain. Salut Céline. Bonne journée sur Europe 1.